Première, kiosque.
Il y a des secrets qui traversent les générations comme des fantômes silencieux. Par exemple, et au hasard, une arrière-grand-mère patronne de bordel militaire dont on ne sait pas grand-chose, une grand-mère morte à 20 ans dont on sait encore moins, et une mère qui raconterait deux versions différentes de sa propre histoire à ses deux filles. Et au milieu de tout ça, une question vertigineuse, comment on se débrouille avec ce vide, avec ces silences, avec ces versions aléatoires, comment on se construit sur un passé incertain. Dans Comme un poisson sans bicyclette, Virginie Thirion transforme une histoire familiale en enquête théâtrale sensible et politique. C'est un spectacle qui a été créé il y a déjà deux saisons, je pense, et qui nous revient en ce moment pour notre plus grand bonheur au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Virginie Thirion et Caroline Berliner sont nos invités. Bonjour.
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 Et bienvenue. Virginie, vous êtes autrice, metteuse en scène. Vous développez un théâtre où l'intime dialogue souvent avec l'histoire et où la fiction devient outil de réappropriation. C'est particulièrement vrai dans ce spectacle. Caroline, vous êtes comédienne. On vous retrouve au plateau aux côtés de Coraline Clément, Émilie Flamand, Arthur Marbet, Anne Romain, Jean-Gabriel Vidal-Vendroit, Loli Warin. La scénographie est de Clara Dumont. Je préfère citer tout le monde en amont comme
Parfait.
Ça s'est fait. Virginie Thirion, tout part d'un choc avec cette pièce. Le fait de découvrir que votre sœur et vous n'avez pas reçu la même version de votre propre histoire. À quel moment ce vertige et puis ce malaise devient matière à faire du théâtre ?
Il y a déjà le choc, ouais. Parce que quand nous découvrons les deux versions, la sœur de fiction vit au Canada, effectivement je suis éloignée de ma sœur, et c'est au chevet de notre mère agonisante que nous nous rendons compte que nous confrontons les deux versions qui nous ont été livrées. Et ma mère est là, entre nous, c'était vraiment le cas, elle était vraiment physiquement là entre nous, mais incapable de nous répondre. Et puis elle est partie, et on est resté avec nos questions. Et moi particulièrement avec la question, pourquoi avoir livré à ma sœur aînée une version édulcorée, la version romantique, rose, où en fait ma grand-mère serait morte d'amour, et m'avoir livré à moi, enfin livré entre guillemets, la version noire, la version sociale, la version où en fait elle aurait été violée ou abusée par la personne chez qui elle avait été placée comme bonne, ou quelqu'un de la maison, et qu'elle se serait en fait, elle aurait été renvoyée dans sa campagne enceinte, et puis après la naissance de ma mère, elle n'a pas tenu le choc et elle se serait pendue alors que ma mère avait 3 ans.
Ouais. Comment on fait quand on se retrouve face à ce récit, à cette réalisation qu'on est deux sœurs et qu'on n'a pas du tout la même version de nos antécédents alors qu'on provient de la même famille, de la même lignée. C'est quoi le premier réflexe ? C'est de chercher quelle version est la bonne ou c'est essayer de comprendre pourquoi on n'a pas eu la même histoire ?
Alors les faits que j'ai pu corroborer tendent à penser malheureusement que ce soit ma version qui soit la bonne, mmh. la vraie. Oui. Et je pense aussi que en ayant un peu remis les événements de l'histoire dans l'ordre, je pense que dans la tête de ma mère, il y avait quelque chose qui n'était pas possible quand ma sœur est née et qui, enfin, quand ma sœur a grandi et qu'elle a commencé à poser des questions, mais qui était possible dans le fait d'assumer la noirceur de l'histoire et quelque part d'assumer la honte aussi que ça suscitait et donc d'avoir pu me dire ce qu'il en avait été vraiment. Après, les gens autour ont un peu lâché comme ça, ce qui m'a permis de me rendre compte que oui, c'était cette version-là qui était la vraie. Alors après, il y a comme un effet de sidération. Mmh. Voilà, on reste comme ça devant la question pendant un certain temps. Et puis après, j'ai commencé à écrire dans tous les sens. Et puis après, je me suis rendu compte que je n'allais absolument pas m'en sortir. Et donc, comme dit Loli Warin, j'ai fait appel à l'équipe. Ouais. Et j'ai réuni autour de moi des acteurs, des actrices avec qui j'avais pas forcément beaucoup travaillé. Loli est une complice d'il y a longtemps déjà, mais Caroline, on se connaît depuis très longtemps, mais on n'avait pas encore eu l'occasion. Et j'ai réuni comme ça, c'était au sortir du Covid, et je me suis dit, voilà, je les réunis autour de moi. On prévoit de passer 2 semaines ensemble. Peut-être qu'au bout de 3 jours, on se sera tout dit, mais c'est pas grave. On aura passé un bon moment. Et puis, en fait, l'histoire fait que, à un moment, j'ai lâché un peu le morceau. Leur réaction et la façon dont ils sont, j'ai été épatée de leur capacité, leur intelligence de comédien et de comédienne à faire du sens à partir de matériaux apparemment hétéroclites. Et ça nous a donné envie de continuer pour le plus grand bonheur de la joyeuse bande.
Mais vous cherchiez quoi, alors, en rassemblant justement ces comédiennes autour de vous? Vous cherchiez
à trouver des réponses ou à se dire qu'est-ce que je peux faire de cette matière pour qu'elle devienne universelle et qu'elle intéresse finalement ceux et celles qui viendront vous voir?
Les deux, mon capitaine. Mmh. Parce qu'en fait, le fait de porter l'interrogation au centre du groupe, quelque part, rassérène, on se sent plus légitime à poser les interrogations, à dire, mais attends, je rêve pas quand je pense ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et puis, encore une fois, je veux dire, chez les acteurs, chez les actrices qui ont du métier, qui ont une capacité de réflexion, ils n'ont pas tout, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les personnes qui sont avec moi sur le plateau ont tous fait à un moment un acte de mise en scène ou d'écriture, et ça m'intéresse. Et de me dire, comment est-ce que j'ai peur, moi, d'être rattrapée par mes fantômes, quelque part. C'est ça aussi qu'il m'aide à faire, à distraire les fantômes, pour arriver à se poser sereinement les questions.
Le silence, le mal-dit, la malédiction, finalement, dans les familles, c'est toujours spectaculaire, et pourtant, c'est effroyablement courant. On ne compte plus le nombre d'individus qui découvrent à l'âge adulte qu'il y a des secrets de famille qui n'ont pas été dits, qui ont été mal racontés, ou bien des récits dont on n'a jamais eu le réflexe ou la pensée de les remettre en question, de reposer des questions sur l'histoire première qui nous a été racontée. Et puis on tombe des nues quand on se rend compte qu'en fait, c'était peut-être pas ça. Donc la pièce, on l'a dit, elle est portée de façon chorale au plateau. On va revenir au dispositif dans un instant, mais j'avais une question pour vous, Caroline. Justement, quand Virginie arrive avec ce matériau très personnel et que vous êtes là tous et toutes ensemble, comment on se l'approprie finalement? Comment on re-raconte une histoire et à quoi ça vient faire écho chez vous?
Mais je pense que ce que vous dites sur le silence quasi structurel des familles et particulièrement le silence des femmes, pourquoi les femmes ne racontent pas leur histoire? Dans les familles en général, on a toujours les récits du père qui vient raconter des anecdotes, qui remplit les dîners de famille avec de la gouaille, moi en tout cas, j'ai 43 ans, je pense je viens d'une histoire où les mères ont toujours eu tendance à se taire et à ne pas partager qui elles étaient, pourquoi elles avaient fait ces choix-là. Et donc, dans la question que vous avez posée au début, est-ce que la question, c'est de résoudre l'enquête ou de, en fait, porter ce silence? Oui. Je pense que ce spectacle, il est intéressant parce qu'il est à ces deux endroits-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est la vérité? On le saura peut-être pas. Les choses sont plus nuancées, plus complexes qu'une histoire rose ou qu'une histoire noire, mais que, par contre, s'interroger collectivement sur pourquoi est-ce qu'on garde des silences autour de nous? Pourquoi les femmes ne transmettent pas à leurs filles ce qu'elles ont été, ce qu'elles ont fait? Ça reste une question qui reste aujourd'hui très résonante et très vibrante et qui continue de nous mettre au travail. En fait.
Vous parlez dans le dispositif justement d'effraction dans le récit, parce qu'il va y avoir des scènes reconstituées à partir de ce squelette de faits que vous avez. Et vous commencez à l'habiller de récit, donc on va avancer par chapitre en repartant de votre arrière-grand-mère Hortense pour aller ensuite chez Suzanne, votre grand-mère, et puis Marie, votre mère, et puis pour revenir au présent. Mais ces scènes reconstituées, imaginées, on en sort fréquemment pour avoir des apartés avec vous, l'autrice, ou avec des moments un peu plus pédagogiques, historiques. En quoi vous y êtes attachée à ce dispositif d'enquête théâtrale? Qu'est-ce que ça permet d'apporter qu'un récit fictionnel complet n'aurait pas permis dans ce cas-ci?
Eh bien, je dirais que quand Cédric, tout à l'heure, a parlé du spectacle et qu'il a dit « and so what », c'est pour répondre ce « and so what ». C'est-à-dire, c'est multiplier les portes d'entrée en se disant que dans la volonté, si jamais il y avait une volonté de ce spectacle qui serait de, libérer une forme de parole, non pas en disant « libérez votre parole », mais en balisant un chemin, quelque part, eh bien, ce serait ça, en fait, de dire « voilà comment on peut faire ». Et puis, on peut prendre les choses comme ça, ben oui, par le biais de fiction, par le biais de reconstitution, par le biais de données historiques, par le biais de billets d'humeur, par le biais de... Voilà. Et de se dire que la richesse et le fait de ne pas tomber dans une... On ne veut pas donner de leçons, on ne veut rien apprendre à personne, mais simplement pour que le partage puisse se faire à plein d'endroits précis.
Ouais.
Caroline. Si je peux ajouter quelque chose à ça, je pense aussi qu'il y a la volonté d'écrire ce spectacle, enfin qu'on est ici et maintenant au présent du théâtre, et que on n'est pas dans une reconstitution fidèle d'une histoire. En fait, je pense que c'était très important pour l'équipe et pour toi Virginie et pour tout le monde, c'est de dire que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on regarde le passé et que donc ces effractions, à la fois par le biais historique ou par le fait d'avoir mis en jeu le personnage de Virginie écrivant et allant à la, faisant son enquête, nous permet, même nous en répétition, à chaque fois de se dire « Attends, mais là on parle des droits de l'avortement, aujourd'hui on est en 2026, qu'est-ce qui s'est passé depuis la création du spectacle en 2024? Est-ce qu'on réactualiserait pas les données à cet endroit-là » Donc nous, ça nous permet d'être toujours en activation par rapport à ce récit-là et de le réinterroger.
Oui, de le garder à jour.
De le garder à jour, oui.
Et si je pouvais encore ajouter quelque chose, c'est que c'est vraiment, il y a une citation de Gloria Steinem qui a écrit Révolution intérieure, oui, que j'aime beaucoup et qui dit « Peut-être partageons-nous les histoires comme les géographes partagent des cartes dans l'espoir de faciliter nos voyages tout en sachant que celui que nous ferons sera unique. » Eh ben, si jamais je devais résumer la volonté du spectacle, ce serait celle-là.
Mais en parlant justement de partager des histoires comme des territoires, il y a néanmoins une histoire de territoire, parce que c'est pas le sujet central finalement, ou en tout cas le sujet premier de la pièce qui nous parle d'abord de silence et de transmission, mais ça nous parle aussi de l'héritage et de l'héritage traumatique, parce qu'on remonte aussi loin qu'on peut ou que vous avez souhaité le faire dans cette histoire, à la fin du 19e siècle, à cette arrière-grand-mère, Hortense, qui naît et grandit fille de paysan à Mailly-le-Camp, oui, une zone campagnarde agricole qui va être complètement rasée et expulsée pour devenir un camp d'entraînement pour
énorme,
soldats.
Ouais.
Et on sent que finalement ce trauma initial de dépossession de terres et de statues, c'est ce qui va conditionner toute la suite de cette lignée. Et sans doute parce que ce ne seront que des femmes qui vont être engendrées. Parce qu'on le sent très bien, à un moment, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a une histoire de grossesse illégitime et non reconnue, où on sent très bien que si l'enfant à venir avait été un garçon, l'issue de l'histoire aurait été probablement très différente.
Exactement.
À quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était important aussi de parler de ça, de parler justement du statut et de cet héritage inconscient qui traverse les générations?
Alors très vite. En fait, c'est vraiment, on en reparlait avec Caroline en venant ici. Je veux dire, quand on s'intéresse aux faits, dès qu'on les replace dans le contexte historique, on est tout de suite confronté à une plus grande complexité qui fait que, en fait, ça appelle de continuer à se renseigner sur le sujet. Quand je me suis rendu compte, par exemple, qu'en cherchant des ouvrages sur l'histoire de Mailly-le-Camp, du camp militaire de Mailly-le-Camp, il n'y avait rien en rapport avec la prostitution. Or, en fait, c'est une donnée fondamentale. Dans chaque ville, j'ai moi-même une petite maison de campagne vers Langres, en France, qui a été une ville de garnison. Sur l'histoire de la ville, rien par rapport à la prostitution. Donc, c'est vraiment ce qu'on a tué. Vraiment, c'est aussi aussi dans le spectacle, la volonté de d'apprivoiser en fait cette histoire, aussi complexe et traumatique soit-elle.
Ouais, justement, comment on écrit l'histoire des gens qui sont pas dans l'histoire, des gens qui étaient à la marge, des paysans, des expulsés, des marginaux, des prostituées, parce que finalement cette histoire, c'est ça, c'est que cette arrière-grand-mère, pour survivre à la sortie de la guerre en se retrouvant veuve, va se rendre compte que le seul commerce possible dans la région, c'est de monter un bordel de campagne, et que pour éloigner sa fille de cette profession quasiment obligatoire, elle décide de l'envoyer en domesticité à 50 km de là. Comment on écrit quand il n'y a pas de traces ?
Eh bien, d'où l'hétérogénéité des matériaux de base. Mm-hmm. Je ne sais pas comment on écrit quand il n'y a pas de traces. Mais je renverrai quand même au livre de Laurent Mauvignier, oui, qui a écrit La Maison Vide, où il y a plein de questions que je retrouve en écho dans sa façon de faire, où celle qui a écrit Mon vrai nom est Elisabeth.
Bien sûr.
Adélion,
voilà. Qui, elle aussi, reprend les données. Il y en a un troisième qui est fétiche que j'ai perdu, qui est aussi écrit par une autrice, mais je trouve que on ne sait pas. Il faut scoltiner la chose. Mmh. Et puis je crois qu'à un moment, il faut une fois qu'on a apprivoisé ces fantômes, il faut les écouter.
Oui.
Parce que je crois que, et puis c'est une façon aussi de remettre du contexte. J'ai dans une autre partie de ma famille des échos de voix paysannes comme ça qui remontent. Pas paysannes, c'est même pas ça, mais de gens de la terre, comme on dit. Des choses qui remontent et on se dit « Ah oui, mais alors ça peut prendre une autre signification dans ce contexte historique, politique, ce que ça veut dire. » Et voilà, tout ça, c'est d'être à l'écoute. Parce que du coup, je reviens aussi à ce que disait Cédric par rapport tout à l'heure au spectacle, c'est aussi que dans l'histoire qui se raconte, oui, les hommes ont leur place.
Oui.
C'est avec eux que ça se raconte. Mmh. Et Dieu sait que c'est fondamental. Je veux dire, bah, Simone de Beauvoir le disait. Je veux dire, elle disait, elle pratiquait un féministe qui disait non, si le féministe c'est juste contre les hommes, on va dans le mur. C'est quelque chose qui doit, une révolution qui doit s'opérer ensemble. Ben voilà, c'est là qu'on est.
L'histoire non écrite des femmes, l'histoire non écrite justement de toutes ces populations qui n'ont pas fait l'histoire parce qu'elles n'avaient pas les instruments du pouvoir ou de l'écriture simplement dans les mains. Aujourd'hui, elles sont en train de refaire surface à plein d'endroits, au théâtre, dans la littérature. On pourrait citer aussi, dans un autre style, Marie-Hélène Lafont et tous ces nombreux romans, mais le dernier qui s'appelle Hors-Champ, où elle parle justement de cette vie agricole et paysanne. Et je voudrais terminer là-dessus. Le titre de votre spectacle, Comme un poisson sans bicyclette, ça renvoie à un slogan féministe des années 70, je pense, qu'une femme sans un homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. En quoi c'est politique de se décider à raconter son histoire de famille, finalement ?
Si, dès qu'on explique, on est vite dans la justification, ce que je trouve extrêmement dangereux. Mais par contre, si je dis que c'est peut-être difficile de réparer, en tout cas, mon grand souci, c'est de préparer.
Oui. Et c'est le bon moment ?
Ah oui, oui, oui. Là, c'est parti. Faut rien lâcher.
On lâche rien, alors.
On lâche rien.
Virginie Thirion, Caroline Berliner. Comme un poisson sans bicyclette. C'est donc à voir au Théâtre des Martyrs ou à revoir, d'ailleurs. N'hésitez pas, du 14 au 20 février prochain. Et j'en profite aussi pour rappeler qu'il y aura des soirées de lecture en parallèle de cette série de représentations. Virginie Thirion dans le texte. Ça va se passer toujours au Théâtre des Martyrs en collaboration avec le magasin d'écriture théâtrale. Et ce sera les 18, 19 et 20 février. Ne manquez pas ça. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
La première, kiosque.